Anticapitaliste, enfin. Je sais que je peux dire ça parce que c'est Radio Campus.
Radio Campus, la radio qui vous secoue les puces.
Thompson, le vieux fermier, a beaucoup d'ennuis. Il n'arrive pas à se débarrasser de son vieux gros chat gris. Pour mettre à la porte son chat, il a tenté n'importe quoi. Il a même posté au Canada et lui a dit, tu resteras là. Ah, mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Thompson paye un petit gars pour assassiner le chat. L'enfant part à la pêche, l'animal dans ses bras. Au milieu de la rivière, le canot a coulé. Le fermier apprend que l'enfant s'est noyé.
Bonjour, vous écoutez Le Matou revient jusque 9h avec Patachou. Aujourd'hui, soyons fous, demandons le possible. C'est une expérimentation toute nouvelle créée à l'initiative d'un collectif de citoyens de Gironde. Chez eux, on cause de santé, de bien manger, de cotisations. À quoi pensez-vous ? Non, ce n'est pas la sécurité sociale, c'est un dispositif qui s'en inspire, en tout cas, de celle qu'elle était à sa création en 1946. Il s'agit de sécurité sociale de l'alimentation. Pour ce collectif, une alimentation saine et durable devrait être un droit universel. En échange d'une cotisation mensuelle qui varie selon la situation, chacun a droit au même montant de dépenses dans les lieux conventionnés fournis par des producteurs locaux. On va écouter Fanny, animatrice d'une caisse locale, et Linda, mangeuse.
Oui, alors je suis Fanny, je travaille à La Boussole depuis 4 ans, je suis animatrice alimentation durable. Et donc je m'occupe du pôle alimentation à La Boussole. La Boussole, c'est un tiers-lieu qui existe donc depuis 4 ans aussi et qui est maintenant aussi espace de vie sociale, agréé par la CAF.
D'accord.
Et donc on a deux pôles d'activité, deux champs d'action en fait, qui sont l'alimentation et l'éducation-formation pour les adultes. Donc on est deux salariés et on s'occupe chacune d'un des deux.
D'accord.
On est chacune référente de notre pôle, quoi.
Voilà. Alors, du coup, le principe de la sécurité sociale alimentaire ici, c'est quoi ?
Eh bien, alors moi, voilà, ce que je fais à La Boussole, donc j'anime un petit marché deux fois par semaine avec un réseau de producteurs. On fait une cantine solidaire avec des ateliers de co-cuisine. Et ma troisième activité, c'est l'animation de la caisse locale du Sud Gironde dans le cadre de l'expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc, à ce titre, La Boussole fait partie de l'association Acclimat Action. C'est une association girondine qui regroupe une dizaine de structures dans différents coins de la Gironde. Et en fait, on travaille ensemble à toutes ces 10 structures. Donc, il y a des centres sociaux, il y a des associations, il y a Supercop aussi. Une coopérative de distribution de produits bio. Et donc on a tous réfléchi, ça fait depuis 2021 que le projet, on travaille sur ce projet-là en Gironde. Nous, on a rejoint le projet en 2022. Et donc l'idée, c'était de reprendre l'idée qui était sortie au niveau national en 2019. Et qui était que, au même titre que la sécurité sociale en 1946, on pouvait mettre en place le droit de l'alimentation, qui est un droit qui est déjà écrit aujourd'hui dans la loi, mais qui n'est pas en place puisque la plupart des pays comme la France répondent à ce droit par le biais de l'aide alimentaire. Mais qu'en fait, le droit à une alimentation choisie et de bonne qualité, finalement l'aide alimentaire ne permet pas de fournir ça. Ça permet de se nourrir, mais pas selon ses choix et pas forcément sainement. Donc en 2019 est née cette idée-là que comme en 1946 on pouvait proposer la même chose, la santé accessible à tous et la bonne alimentation accessible à tous, avec ces trois piliers d'universalité, de conventionnement démocratique et de cotisation. Donc c'est vraiment les trois fondements de la sécu sociale de l'alimentation. Et donc on a travaillé à se dire ce serait bien qu'on l'expérimente. Et en fait il y a plusieurs autres initiatives en France qui ont vu le jour, notamment à Montpellier, ça a démarré en janvier 2023. Nous on est la deuxième vraiment avec une ampleur assez conséquente, mais il y en a d'autres qui se préparent en Bretagne, à Paris, en Alsace, dans la Drôme. Enfin voilà, il y a plein de...
Est-ce que là c'est une dimension départementale, régionale ?
Oui, alors Montpellier c'est à l'échelle de la ville et nous c'est à l'échelle du département. On a le soutien du département. qui est co-porteur en fait du projet. Le projet, il était porté par Acclimat Action, le département et la ville de Bordeaux. Donc c'est les trois co-porteurs et donc qui ont piloté vraiment tout le montage du projet. Et l'idée, c'était de faire participer les citoyens dès le début en fait du projet. Donc en janvier 2024, on a démarré un parcours citoyen. Parcours d'engagement qui a réuni 40 citoyens de la Gironde, 10 par territoire. Du coup, il y a 4 territoires qui sont représentés. Il y a le sud Gironde, il y a le pays foyen, il y a Bordeaux-Nord, la Benauge et à Bègle. Et donc, sur ces 4 territoires, il y a 10 citoyens qui ont travaillé pendant 6 mois à d'abord se forger une culture commune sur le thème de l'alimentation et ensuite à rédiger une charte de conventionnement pour se dire, bon, bah, s'il y a une sécurité sociale de l'alimentation qui se créerait, comment on ferait ? Là, il faudrait conventionner des produits, oui mais comment, oui mais lesquels. Et donc on a écrit une charte de conventionnement. Donc cette charte, elle a été validée en juillet 2023. On l'a présentée au département, ça a été validé donc, par le comité de pilotage qui était composé des trois porteurs de projet. Et ensuite, on est passé à la deuxième phase du projet qui était, on élargit ces groupes de citoyens à des acteurs des territoires en lien avec l'alimentation. Ça peut être des producteurs, ça peut être des magasins, ça peut être des mangeurs, des associations, des AMAP ou des choses comme ça. Et on continue de réfléchir à comment ça pourrait fonctionner. Donc ça a commencé en septembre 2023 jusqu'au mois de mars 2024. Donc on a écrit, on a réfléchi, une caisse locale, oui, alors il faudrait des comptoirs, il faudrait qu'on se réunisse tous les mois, enfin voilà, vraiment concrètement comment ça marche. Et en avril 2024, on a pu commencer à ouvrir cette expérimentation, donc avec les gens, les citoyens qui avaient participé au projet depuis le début. Et ce panel a été complété par d'autres personnes qui se sont inscrites, on a fait des réunions publiques et qui ont été tirées au sort, de façon à ce qu'on ait sur chaque territoire une cinquantaine de foyers, et que ça représente une centaine de personnes. Donc on est accompagné par un groupe de chercheurs, c'est de la recherche action. Et donc ils nous ont fait un panel pour que sur chaque territoire, on ait à peu près des groupes représentatifs de la société girondine. Donc les deux critères de sélection, en tout cas pour le tirage au sort, c'était selon la composition du foyer et selon les revenus du foyer.
D'accord.
Donc voilà, donc on a des panels représentatifs sur les 4 territoires.
Alors comment ça fonctionne concrètement là, cette histoire de cotisation
Alors du coup, l'idée c'était que chacun comprenne bien les enjeux de la cotisation. Parce que l'idée sur un projet à long terme, ce serait que on cotise de la même façon qu'on cotise aujourd'hui pour la sécurité sociale, selon ses moyens, et on reçoit et on utilise ce droit selon ses besoins. Donc concrètement, on cotise un montant mensuel que l'on choisit. C'est pas imposé. On a une grille pour essayer de se positionner. On a des échanges, on discute pour savoir quel est le meilleur montant en fait. On choisit pas tout seul devant son ordinateur, surtout pas. Mais le montant, il est libre. Il y a un montant minimum de 10 euros par personne plus 5 euros par personne composant le foyer en plus. Mais après, le montant, il est libre. Ça va de 10 euros à, je ne sais pas, là, dans l'expérimentation, peut-être dans les 300 euros, quoi. C'est vraiment très variable en fonction de ses moyens. Et ensuite, la cotisation déclenche la réception de MONA. Et là, par contre, le montant des MONA qu'on reçoit est fixe. C'est-à-dire qu'il est déterminé selon le nombre de personnes qui habitent, qui composent le foyer. Donc, une personne va recevoir 150 MONA par mois. C'est 75 euros pour le foyer plus 75 euros par personne. Donc une personne, ça fait 150, deux personnes, 225, trois personnes, 300 par mois. Et donc ces MONA peuvent être utilisés pour acheter des produits donc conventionnés dans des lieux conventionnés par les participants eux-mêmes. C'est pour ça, c'est le but de ces caisses locales. On se réunit une fois par mois et on conventionne des lieux donc qui se sont portés candidats, qui se sont auto-évalués par rapport à cette charte de conventionnement qu'on avait écrite l'année dernière. Et nous, ensuite, il y a un binôme de participants qui vont rendre visite à ce producteur pour discuter, pour bien comprendre comment il fonctionne. Ils viennent rendre compte au moment de la caisse des échanges qu'ils ont eus. Et ensuite, tout le monde décide ensemble du conventionnement du lieu.
D'accord.
En fonction de trois critères. Donc, comment dire ça ? On pondère le niveau de respect par rapport au cahier des charges. C'est-à-dire que si le producteur coche les 5 cases par rapport aux 5 critères, il est conventionné à 100%. S'il respecte 4 critères sur 5, il est conventionné à 75%. Et s'il respecte 3 critères sur 5, il est conventionné à 50%. En dessous, on considère qu'il n'est pas conventionné. Et ce pourcentage-là, ça veut dire que quand on va faire nos achats chez ce producteur-là, s'il est conventionné à 100%, ben, on peut payer la totalité 100% en Mona. S'il est conventionné à 75%, ben, 75% du montant est payé en Mona et le 25% en euros.
D'accord, donc, voilà. Mixe un petit peu les deux possibilités.
Voilà. Mmh. Et l'idée, c'est de bien sûr de mettre en avant et de valoriser ceux qui cochent les 5 critères.
Et alors, les critères pour les producteurs, c'est.
Alors, il y a le bien-être au travail, les pratiques agricoles durables. Alors, on ne cherche pas forcément que du bio. Mais s'ils sont bio, bah, ça facilite du coup le conventionnement. Et s'ils ne sont pas bio, bah, du coup, on va poser plus de questions, voir. Enfin, ce qui compte, c'est la philosophie vraiment du producteur, quoi. Est-ce qu'il applique juste le BABA en conventionnel, ou est-ce qu'il essaye de faire au mieux pour l'environnement, pour lui, pour les mangeurs? Enfin, voilà, on cherche ça. Sans être forcément certifié bio, on cherche quand même une philosophie de travail pour le bien de tout le monde, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les pratiques agricoles durables. Et après, il y a la transparence et la juste rémunération. Parce qu'on est vigilant au fait qu'il n'y ait pas que ce système-là ne crée pas une montée des prix, par exemple. Et que le producteur soit correctement rémunéré aussi, qu'il ne brade pas ses prix parce qu'il ne s'en sort pas. Enfin voilà, que tout le monde trouve sa place justement, en tout cas qu'il y a un juste équilibre, et que le consommateur à la fin sache exactement ce qu'il paye et à quoi ça correspond. Voilà. Je peux t'envoyer la charte si tu veux.
Mais pour les produits, moi ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait justement une attention à ce que les produits soient bruts, de manière à ce que les gens cuisinent et pas.
C'était l'idée de départ, c'était de favoriser les produits de base et bruts, pour que les gens puissent se nourrir facilement. Donc voilà, les pâtes, le riz, le beurre, le pain. Ça... Donc le pain, c'est un produit transformé, mais première transformation. Et vraiment des produits de base, c'était vraiment l'idée de départ. Et une grosse volonté d'exclure tous les produits issus de l'ultra-transformation. Donc tous les produits qui contiennent les additifs et tout ça, ça c'est sûr que c'est exclu. L'alcool, bien sûr, c'est exclu aussi. Et après, donc il y a des produits qui sont entre les deux, qui posent débat. Et c'est un petit peu, là on l'a découvert au moment des caisses locales, qu'on n'était pas tous d'accord sur la charcuterie, qu'on n'était pas tous d'accord sur le tofu. Enfin voilà, on ne s'était même pas posé ces questions-là. Et donc on s'est dit, en fait, toute cette année d'expérimentation, elle va nous servir à approfondir nos connaissances sur le système alimentaire actuel, sur les processus de fabrication. Et puis à la fin de l'année, on va être expert dans notre alimentation et c'est chouette. Et on pourra vraiment conventionner des produits en connaissance de cause. Parce que là, des fois, on tâtonne un peu, on se dit, mais en fait, peut-être qu'on ne sait pas. Et bon, donc des fois, on hésite. Donc pour l'instant, dans le doute, on ne conventionne pas. Et on attend d'en savoir plus sur les filières. Et là, même sur les autres territoires, on en est à peu près tous là. Il y a beaucoup de questionnements sur la filière de poisson, sur la filière de la viande, sur les emballages. Donc là, nous, on a contacté le SICTOM pour se renseigner sur les filières de recyclage. Parce qu'on se disait, mais il ne faut pas trop les emballages plastiques. Parce que derrière, ça ne se recycle pas. Mais maintenant, on peut tout recycler. Alors que le verre, pour le recycler, il faut monter à une très haute température. Et finalement, c'est peut-être pas si bon que ça. Enfin, on est parti dans des débats et des questionnements et on n'avait pas les réponses. Donc du coup, ça va être chouette parce qu'on va se questionner et on va consulter des experts qui vont pouvoir nous donner toutes les infos.
Et alors, utiles. Je me disais, financièrement, là, il y a une subvention, j'imagine, des collectivités.
Oui, plusieurs.
Voilà. Est-ce que c'est viable à terme sans financement? Parce que là, si chacun cotise en fonction de
ses moyens... Là, en fait, on est parti. Le projet, il a été monté en se basant sur le fait que la cotisation allait financer à 40% la caisse. Et donc, ce n'est pas un chiffre sorti nulle part, c'est ce qui est ressorti de l'expérimentation de Montpellier. Donc, on s'est dit, on va partir. Ils ont commencé autour de 40, je crois, et maintenant, ils sont autour de 60. Donc, on a dit, on va partir là-dessus. Et le reste, c'est des subventions. Et c'est le début. Donc, on voit. Oui. On va voir à combien on commence, à combien on finit. Et on va voir est-ce qu'il y a une progression. Et puis là, aujourd'hui, c'est des subventions. Mais si on se repenche sur la sécurité sociale de la santé, aujourd'hui, il y a des cotisations salariales et il y a des cotisations patronales. Donc est-ce que plus tard, les cotisations patronales viendront remplacer la part de subvention actuelle? On ne sait pas, en fait. Parce que là, pour ça, il faut qu'il y ait une loi et on n'en est pas encore là.
Donc le but, c'est aussi de faire en sorte qu'une loi existe là-dessus.
Oui, complètement. Et là, il y a tout un plaidoyer à faire, en fait, politique pour arriver jusqu'à la loi. Et c'est le rôle de chaque initiative locale et aussi du collectif national. Il y a une association qui vient d'être créée qui s'appelle les Amis de la SSA et qui recense et qui regroupe toutes les initiatives locales pour que chacun puisse dire nous on a testé ça comme ça et ça a bien marché, ça a pas marché, pour arriver à quelque chose d'abouti. Et là c'est vraiment le but, on teste et on voit ce qui se passe quoi. Et là ce qui est intéressant dans notre expérimentation, c'est qu'on a 4 territoires différents, qu'on a des territoires ruraux et des territoires citadins, et on voit les différences même dans les conventionnements en fait. Et donc ça montre bien qu'il y a une autonomie des territoires qui est importante et qui est intéressante.
Oui, je me disais là, cette histoire de cotisation libre, ça fonctionne parce qu'on peut aussi se dire tiens, je vais payer pas cher, je vais avoir accès à 150 € par mois.
Oui, complètement. En fait, on avait fait des jeux de rôle, des simulations, pour se dire qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on propose un montant ? Est-ce qu'on laisse libre ? Est-ce qu'on donne une grille ? On avait testé différents scénarios et en fait, on s'était rendu compte que les gens donnaient beaucoup plus s'ils n'étaient pas guidés par une grille. Enfin, s'ils étaient... Et puis la grille, c'était très compliqué à construire parce qu'il fallait... Sur quoi on se base ? Sur les dépenses alimentaires, sur le revenu du foyer, sur le reste à vivre. En fait, en discutant dans ces jeux de rôle, on s'est rendu compte que en fonction des scénarios de vie, un seul critère ne suffisait pas. Donc on s'est dit, on va plutôt faire comme ça. Et ce qu'on voit là, au bout de deux mois et demi de démarrage, c'est que les gens qui sont impliqués, les citoyens participants qui sont impliqués dans le projet depuis le début, donnent pas le minimum. Et que c'est les gens qui sont tirés au sort, qui débarquent, qui savent pas trop où ils sont, qui vont plus facilement donner le minimum. Alors il n'y a pas que ça comme critère, il y a aussi bien sûr les revenus, la situation de vie, mais pour en avoir discuté avec des participants qui sont en grosse difficulté financière mais qui sont dans le projet depuis le début, elle m'a dit non, moi je donne pas le minimum parce que je sais à quoi ça sert et je sais que c'est important et tout ça. Donc c'est vraiment un élément qui ressort là et qui est important, c'est l'implication dans le projet pour une participation juste en fait. Parce qu'effectivement, y a des personnes, mais là on va voir, on arrive au palier. L'idée c'est que les gens peuvent changer leur cotisation tous les 3 mois. Ils peuvent modifier le montant. Donc là on a commencé en avril, on arrive en juillet. Donc on va pouvoir voir les premières modifications et voir comment ça évolue.
D'accord.
Mais ça fait partie de l'expérimentation aussi de tester ça, de cette liberté de choix.
Mais globalement, ça, en fait, l'idée, c'est aussi de permettre de sanctuariser une partie de son revenu pour une alimentation saine et puis une santé. Enfin, du coup, il y a des enjeux plus globaux au niveau de la santé.
Mais complètement, c'est un peu les vases communicants. En mettant de l'argent pour l'alimentation, à terme, l'idée, c'est que ça fasse moins de dépenses pour la santé, puisqu'on sera en meilleure santé si on s'alimente mieux. En plus, ça concourt à une meilleure rémunération des producteurs. Et ça, nous, on le voit déjà là, au bout de 2 mois et demi. Même les magasins avec qui sont conventionnés, là, notamment les amis de la Copé à Langon, qui me disent, nous, nos commandes auprès de nos producteurs locaux, elles ont beaucoup, beaucoup augmenté là, depuis le mois d'avril, parce qu'on a plus de ventes. Donc, du coup, ça se répercute directement auprès des producteurs. Et ça, autant l'impact sur la santé, on va mettre plus de temps à le voir, que l'impact sur les producteurs, il est déjà assez visible. Donc ça, c'est chouette.
D'accord. Dans le contexte actuel, quand même, tout ça ne paraît pas un peu irréalisable ?
Alors, ça paraît utopique, mais en 46 aussi, c'était utopique et ils l'ont fait. Donc, vraiment, nous, on est super contents parce qu'on se disait ça, plus on l'écrivait, plus on avançait. Mais en fait, on arrive déjà à faire une expérimentation et ça fonctionne. Et en fait, il faut vraiment que ça vienne d'un mouvement citoyen, en fait. Si tout le monde s'y met et tout le monde... participe et pourquoi pas quoi. En 46 ça a marché et c'est le contexte, après on va rentrer dans la politique, mais le contexte politique de 46 a fait aussi que ça a fonctionné et peut-être qu'on va arriver là à un contexte qui fait que peut-être aussi ça va pouvoir déboucher. Mais, c'est un jeu de rapport de force qui fait que, mais là du coup c'est à titre personnel, il me semble qu'on est déjà allé assez loin par rapport au climat, par rapport à la situation des agriculteurs, le rapport de force, il est déjà là, en fait. Donc, ça pourrait être une réponse, en tout cas, à ces deux grosses problématiques. Et j'en rajoute la troisième, de la santé humaine.
Et de la lutte contre les inégalités sociales.
Oui, complètement. Mais ça, c'est le pilier de l'universalité, qu'on ne peut pas trop tester du fait qu'on est qu'avec un panel de 400 personnes. Donc là, l'universalité, on le teste pas vraiment. Mais avec le panel fait par les chercheurs, on essaye de s'y rapprocher. Mais ça, on pourra vraiment le tester qu'à grande échelle. Quoi.
D'accord. Ouais, super, merci.
Voilà. Mais de rien.
Bonjour, je m'appelle Linda et j'habite en Gironde, dans le sud-ouest, dans le sud du département, à une heure au sud de Bordeaux. Et là, je suis partie donc, du groupe de bénévoles du sud d'Gironde qui avons expérimenté la MONA, la sécurité sociale de l'alimentation, depuis le mois d'avril maintenant. Donc oui, donc la personne, une des deux personnes qui s'occupe du groupe local Sud Gironde m'avait proposé d'intégrer le groupe de bénévoles il y a déjà maintenant deux ans, trois ans, quelque chose comme ça. Parce que les questions d'alimentation m'intéressent et que j'étais toujours en train de demander, de me questionner sur les produits qui étaient vendus donc dans ce tiers-lieu, les poissons de l'élevage, comment ils sont nourris, tout ça, qu'est-ce qu'on mange. Et donc du coup, elle m'avait proposé la première fois. J'étais occupée, j'avais dit non. Et la deuxième fois, lorsqu'elle m'a proposé un an après, parce qu'ils ont élargi le groupe de bénévoles, je me suis dit, bon, allez, c'est quand même vachement intéressant comme projet, donc je saute. Et donc, j'ai été bénévole pratiquement une année avant d'intégrer le groupe d'expérimentateurs, enfin de mangeurs, en fait, on nous appelle les mangeurs. d'avoir donc mon compte Mona et d'utiliser en fait de faire partie de cette expérimentation avec tous les autres habitants du Sud-Gironde qui ont bien voulu donc poser leur candidature et qui ont été tirés au sort. Voilà.
D'accord. Alors qu'est-ce que vous en tirez d'intéressant du coup de participer à cette initiative ?
Alors, je trouve ça super intéressant parce que moi, ça me permet de regarder un peu plus comment je consomme déjà, combien je dépense. Et puis, surtout, ça encourage aussi des lieux quand même. Il y a notamment dans les lieux, dans les lieux qui sont conventionnés là en Sud-Gironde, on a des producteurs, mais on a aussi un supermarché coopératif. Et du coup ça met aussi en valeur en fait ces lieux-là, ces producteurs, et surtout moi ce que ça m'apporte c'est un peu plus de réfléchir un petit peu à comment je consomme, même si j'étais déjà quand même très très consciente et que je mangeais local et bio depuis très longtemps. Ça me permet quand même de me questionner un peu plus et surtout d'apprendre plein de choses. Moi qui croyais savoir un peu tout et avoir fait le tour du sujet, je me rends compte qu'en fait il y a notamment sur tous les labels il y a plein de choses que je sais pas. Sur le recyclage des déchets aujourd'hui, comme ça change et que les normes de recyclage et ce qu'on nous demande de collecter, ça change aussi. Je suis plus forcément au fait, donc ça nous demande de vraiment nous intéresser et ça nous cultive vraiment en fait, le fait de réfléchir à toutes ces questions. Et puis c'est très très rigolo de voir que il y a pas on est 40 consommateurs et expérimentateurs en Sud-Gironde et on est tous on a tous des visions très très différentes de l'alimentation et de ses conséquences, et enfin voilà, c'est chouette de voir qu'en fait on peut discuter en toute intelligence sur ces sujets, malgré le fait qu'on a des approches très différentes et qu'on vient de milieux très différents, très divers aussi.
Du coup, pour la cotisation, comment vous avez fait par rapport à justement ce choix un peu libre de choisir un petit peu ce que vous alliez cotiser ?
C'était très intéressant en fait. Donc il y a un minimum, si je me souviens bien, de 15 € par foyer, de 15 € par personne, plus 5 € par personne supplémentaire dans le foyer. Ça, c'est vraiment le minimum qu'on est censé cotiser chaque mois. Donc des personnes s'en tiennent à ça et on cotise ça. Et ils reçoivent la même somme, en fait. Chacun reçoit la même somme de 150 € plus 75 €, il me semble, par personne supplémentaire dans le foyer, chaque mois, en échange de leur cotisation. Moi, en fait, je ne savais pas trop en fait, combien j'allais donner. Ils ont créé un outil super intéressant là. Je pense qu'ils se sont aussi basés sur l'expérimentation de Montpellier et ils nous ont fait un tableau à trois entrées en fait, en nous proposant de nous questionner vraiment sur par rapport à nos charges, pas seulement par rapport à nos dépenses déjà alimentaires, mais sur tout un tas d'autres paramètres qui nous a permis vraiment. Moi en fait, je cotise pas du tout ce que j'avais prévu de cotiser en fait. Voilà, je cotise plus que ce que j'avais prévu. À la base, j'avais pas prévu en fait de cotiser autant par mois. Et finalement, j'ai choisi un juste milieu. Et j'avais même envie, à la fin, en fait, de ce travail de questionnement avec ce tableau-là, de cotiser un peu plus. Mais bon, financièrement, en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, je me permets de cotiser un peu moins que ce que j'aurais finalement voulu au final, mais beaucoup plus que ce que j'avais prévu initialement, en fait. Donc, ça m'a vraiment fait bouger dans mon approche de... est-ce que je participe à mes moyens et en même temps j'ai envie de soutenir cette caisse locale et de montrer aux politiques que cette expérimentation c'est une expérimentation, mais que si elle pouvait être généralisée à toute la France et à tous les Français, ce serait juste très très chouette pour la société qu'on a envie de créer. Voilà.
Santé. Je ne mange pas, c'est mauvais pour la santé. Tout, 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 c'est mauvais pour la santé. Je ne bois pas, c'est mauvais pour la santé. Je ne mange pas, c'est mauvais pour la santé. Je ne me tue pas, c'est mauvais pour la santé. Tout, 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 c'est mauvais pour la santé. Je ne me tue pas. C'est mauvais pour la santé, je ne meurs pas. C'est mauvais pour la santé, je ne me tue pas. C'est mauvais pour la santé, je ne meurs pas. C'est mauvais pour la santé. Tout, 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 c'est mauvais pour la santé.
Radio Campus 106,6, la radio qui ne rentrera pas là-dedans. Voilà, c'était tout sur cette initiative enthousiasmante de la sécurité sociale de l'alimentation. Si vous voulez avoir plus d'infos sur ce collectif national, vous pouvez aller sur le site sécurité-sociale-alimentation.org. Il y a également des réflexions qui se mènent dans la région des Hauts-de-France. Pour avoir plus d'infos, vous pouvez également aller sur le site apes-hdf.org. On passe à autre chose avec la production de l'atelier d'écriture Entre les blés sur le coquelicot qui se mange d'ailleurs. Voilà, c'était un atelier qui se déroulait le 30 juin avec Julie, Sophie, Domiti, Hervé, Diana et Azélis.
Ode aux folichons funambules. Leur fantaisie, leur originalité et leur ignorance font d'eux d'irrésistibles imbéciles heureux. Ils ondulent face à l'horizon dans une sorte de fronde lunatique, Éternelles intrigues en fantasques, ils embrassent la lointaine évasion dont nous rêvons tous.
Une fourmi prépare son évasion. Elle y pense depuis longtemps. Elle rêve d'horizons lointains, d'itinérance. Ça a commencé par des rêves, la nuit, dont elle se réveillait hagarde et interloquée, ne sachant plus ce qui était la réalité, le rêve. Elle était comme ivre et droguée. Peu à peu, elle a su retenir ses rêves une partie de la journée, ce qui lui permettait de mieux supporter cette vie de forçat, trimée, 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 toujours trimée, en compagnie de ses congénères, de parfaits imbéciles heureux, à qui elle n'avait rien à dire. Différente, elle s'était toujours sentie différente, décalée, comme à côté.
Rassemblement, rassemblement, fourmis, libellules, oiseaux et papillons, rassemblons-nous. L'heure est grave. La nuit dernière, le feu a été vidé. Plus la moindre goutte. Vraisemblablement, à nouveau une intrigue de l'oligarchie. Ne nous laissons pas faire. Menons une fronde, libérons-nous. Faute de quoi, nous deviendrons des lèche-bottes assoiffées.
L'oiseau est libre comme une intrigue éponyme. Mais l'évasion des fourmis est d'une complexité orthonormée. Il faut une ivre fantaisie pleine d'énergie pour les emmener vers une fronde folichonne.
Voilà. Alors, bienvenue à la fabrique des oiseaux ivres. Ici, on y construit des trucs pas folichons, un tas de machines qui sentent pas bon et des déchets éternels. Voilà.
Loin d'ici, là où s'arrête l'horizon, se cache une hirondelle. Mais son bec est celui d'un héron. Une malformation de naissance sur laquelle tous les oiseaux plaisantaient. L'hirondelle est donc calée au pays des malformés. Les grenouilles ont des pattes de chat et les escargots des ailes de libellule. Mais tous sont ivres de bonheur.
Fougère, fromage, farandole, pustule, promesse, pathétique. À chaque fois qu'elle entendait un mot, elle ne pouvait pas empêcher son cerveau de lui en proposer trois autres qui commençaient par la même lettre. Sans lien avec la phrase prononcée et sans aucun rapport entre eux. L'infirmière avait dit « les fenêtres, puis les portes ». Elle n'avait pas entendu les autres mots de la phrase. « Il faut fermer les fenêtres. » Fougère, fromage, farandole. Les portes, pustules, promesses, pathétiques. Des images aussi lui traversaient l'esprit. Les fenêtres, fougère, fromage, farandole, figuier au bord de l'eau. Les portes, pustules, promesses, pathétiques, papillons collés sur un lampadaire. Il est interdit de manger, moratoire, magie, majestueux, mine de sel dans les Andes. L'infirmière continuait consciencieusement la lecture du règlement intérieur. Pas de sortie, saucisson, salopette, cystite. Soirée mousse chez l'ambassadeur. La distribution des médicaments... Dadaïsme, décalé, dorure, danse de la pluie. Ça pouvait durer des heures ainsi et elle loupait tout un tas d'informations importantes. C'était sans doute sa façon à elle de supporter tout cela. L'hospitalisation, la camisole, les médicaments, les électrochocs, l'exposition devant tant de médecins. Elle se réfugiait dans son monde de lettres et d'images, tellement plus doux et rassurant.
C'est horrible.
Fourmi a réussi son évasion. Je vous passe les détails techniques. On est plutôt dans un conte philosophique, pas dans un James Bond. Elle a franchi la clôture, la voilà à l'orée de sa nouvelle vie. Elle s'arrête, prend le temps de respirer, elle fait ses petits exercices de Qigong, comme elle a appris aux ateliers bien-être, obligatoires dans la cité des fourmis. Injonction du Happiness Chief Manager. L'idée étant qu'une fourmi heureuse et plus performante et cause moins de problèmes à la société, rapporte plus et dépense moins. C'est tout bon, win-win, comme on dit. Derrière la clôture, la cité des fourmis, le monde qu'elle a toujours connu, et devant, un champ d'herbes folles, immense, très, très, très haute. Vous imaginez, rapportée à la taille de la fourmi. En plus, elle n'est pas grande pour une fourmi. Pas lilliputienne, non, mais petite, petite, petite. Et là, à cet instant précis, fourmi se demande si elle n'a pas fait une grosse, une énorme connerie. Tout à l'heure encore, elle était motivée à bloc, partante pour le grand départ. Mais là, d'un coup, devant ce champ d'herbe folle, elle n'est plus sûre du tout d'avoir fait le bon choix. Partir, oui, mais pour aller où? Là, cette fois, elle est vraiment toute seule. Elle n'a parlé de ses projets à personne. Alors elle hésite. Y aller ou faire demi-tour et rentrer sagement se coucher. Personne ne s'en rendrait compte. Elle pourrait reprendre sa vie là où elle l'avait laissée, comme si de rien n'était. Non mais quoi, tu rigoles, non? Là, c'est son moi aventurier qui se réveille, qui prend les rênes. C'est quoi ce délire? Allez, go, 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 on y va, on y croit. Et c'est comme un élan irrépressible, comme si une main l'avait poussée dans le dos. Ça y est, elle est partie. Elle est dans le champ d'herbe folle. Quelques pas et elle se retourne. Elle ne voit plus la cité des fourmis. Elle est partie pour de bon. Elle se laisse guider par son instinct. Elle se laisse mener par le bout du nez. Elle a perdu le nord de toute façon. Et le sud, et l'est, et l'ouest. Elle est larguée de chez larguée. Alors, il n'y a plus qu'à avancer. Droit devant, ou pas, tous les chemins mènent à la liberté.
C'est une véritable jungle ici. Ça pousse de partout, à une vitesse de dingue. Pourtant, partout où je pose les pieds, il y a des pissenlits et des chardons. Et ces pâquerettes, je déteste les pâquerettes. Chaque fois qu'elles dépassent un peu trop, je m'empresse de les tondre. Je ne fais que mon devoir. Si je ne le faisais pas, qui le ferait? Il y a tellement de travail, il faut que je désherbe. Vite, arracher tout ce qui dépasse. Couper, tailler, tout ce qui sort du carré. J'aime quand c'est propre, j'aime quand c'est désert. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'absence d'abondance. Heureusement que je suis là pour nettoyer, pour mettre un peu d'ordre dans ce capharnaüm. La nature est si décoiffée. Heureusement que je suis là pour lui raser le crâne. Mais quoi, je ne me suis même pas présenté. Mes excuses. Je me nomme Monsieur Tout-le-Monde. Mon travail, je suis stérilisateur. Ma mission est de nettoyer la terre et toutes ces herbes dégoûtantes. Aujourd'hui, avec mes collègues, on a bien avancé. C'est bien propre, c'est bien lisse. Bon, il y a toujours quelques dégénérés pour nous mettre des bâtons dans les roues. Des branquignoles qui viennent nous empêcher de bien travailler. Ils n'arrêtent pas de nous répéter qu'il faut laisser les herbes pousser, que ça fabrique ce qu'ils appellent de l'oxygène. Mais moi, ça me fait bien rire, parce que l'oxygène, on en fabrique déjà à l'usine. Qu'ils sont bêtes.
Les champs sont tristes ces derniers temps. Le soleil est voilé, les coquelicots sont fanés. Seul le tournesol se porte bien. Droit sur sa tige, il rayonne de ses 1000 pétales. Il est royal, observent les pâquerettes. Idéal, ajoutent les bleuets. Quelque chose se trame, s'inquiètent les coquelicots. Tous lancent un appel pour former une assemblée à laquelle le tournesol n'est pas invité. La nuit s'écoule sous les débats qui font trembler la terre et déménager les fourmis. Mais le silence règne, les fleurs ne poussent pas un cri. L'aube est teintée de rouge, le tournesol a disparu. Rien ne bouge, les coquelicots ont vaincu.
Oui, c'est pas folichon, dit l'imbécile heureux en se grattant la lune. L'autre tentait de lèche-botter l'infirmière chef. D'autres patients lancèrent une fronde pour prendre le pouvoir et mettre un peu de fantaisie dans cette fabrique d'hétéronomes normés. Libérés, ils se mirent à couvrir les couloirs de fioritures étincelantes et d'ondulations vivifiantes. Folia sortit à l'aide du trousseau de clés du psychiatre qu'elle avait barricadé dans les toilettes pour lui apprendre à connaître de plus près le puits sans fond de l'existence. Elle déboucha dans le parc arboré et se trouva près d'un coquelicot encore vaillant. « Que fais-tu là ?»« Je coquelicote et conjurationne. Puis-je faire pareil ? Bienvenue. Comment procéder ? Il suffit de creuser dans l'humus de quoi te nourrir. Tes plumes vont pousser toutes douces, puis un bouton sortira, puis une fleur écarlate, et celle-ci s'étiolera et donnera des graines qui se disperseront au vent du large. Elles seront mangées par les oiseaux qui les sèmeront plus loin et donneront de jolis coquelicots. Seule condition pour que cela marche, ces graines doivent être semées dans les friches, les espaces ouverts aux herbes folles. Ceux qui ne sont pas labourés, on les appelle les talvers, ce bout du champ où le tracteur s'arrête pour se retourner. Ce sont des interstices, là où jaillit la vie. Nous sommes les reines des fioritures et des ondulations. Rejoins-nous avec tes amis enfermés là-bas. Nous serons plus nombreux à conjurationner le mauvais sort, et on ne sera pas de trop. Folia partit chercher les autres patients qui jaillirent des murs et des fenêtres. Ensemble, ils se mirent en cercle, se peinturlurèrent de couleurs coloriées, psalmodièrent des chants de lutte. Ils se relièrent dans la nuit aux Indiens du Mexique et d'Océanie. Cela formait une constellation de planètes et d'étoiles. C'est ainsi que leur nas couvrit les normés, hétéro, mono et cono. Écono.
Écono.
Oui, enfin, les hétéro. Attends. Des hétéros, mono et cononormés.
Haricots à gros poils, tomates avinées, chou qui pue, chou qui pète, qui prend son pull pour une carpette, fenouil à grandes pattes et pâtisson à grandes nouilles, correcte carotte et insolent navet, le bouillon à couper court, parfum de thym, de romarin, aneth, cueillette sauvage de sauge, sage et d'origan à main nue, le doigt dans le ruisseau.
On est allé sur la lune, on a gagné un match de foot. Ok, c'était pas vraiment nous, mais on est allé sur la lune, on a gagné un match de foot. Ok, c'était pas vraiment nous, mais on est allé sur la lune, on a gagné un match de foot. Ok, c'était pas vraiment nous, mais
Jean, t'as mal au dos?
Ah non, c'est une plus.
Radio Campus, cherchez pas à comprendre.
Une autre production d'atelier d'écriture entre les images, qui date du 28 avril, avec Hélène, Dominique, Diana, Fanny, Marie et Julie, à partir de la citation « Les mots écrits sont des mains qui tâtonnent dans l'obscurité » de Jean-François Beauchemin. Atelier d'écriture du dimanche 28 avril 2024, entre deux images. Écrivez un texte en 5 minutes à partir de l'acrostiche du mot « image ».
Elle gémissait face au miroir. Le moindre mouvement la ramenait à ses instants magiques. Telle une gymnaste assoiffée d'étirements, elle revivait les mouvements anarchiques du gala italien. Instant magnétique et, esperluette, néanmoins absurde et anarchique. Elle aspirait à la sobriété, à l'immanescence, mais ses mots la renvoyaient à son état d'enclume, anesthésié, gigantesque hippopotame sans énergie, ayant mangé beaucoup trop de gaufres.
Là, je rebondis, parce que c'est...
Ah oui, attends.
C'est tout à fait...
Je rebondis pas trop, j'ai mangé trop de gaufres, je vais vomir.
Non, c'est pas...
Pourquoi tu as peur que tu triches?
Oui, j'ai peur que je triche tout le temps.
Alors, l'honnêteté, ce n'est pas la transparence ni l'immanence, c'est un filtre anarchique et translucide qui floute l'intimité mais laisse passer la lumière.
Wow. Tu veux prendre la suite, Hélène ?
Allez. Alors, c'est bon ?
C'est bon.
Point d'artifice face au miroir. Les sillages sur le visage ? La trace que chaque instant a déposée. Aucune élimination possible. Ce serait absurde. Aucun mouvement, aucun geste ne saurait effacer ce que le temps a inscrit sur cette image parfaite. En cette matinée parfaite, une image, un visage, mon visage. Alléluia.
Oh. Dominique.
Ce fut un instant magique quand le vieil homme fit de la gymnastique sans aucun artifice. L'émotion fut gigantesque quand je l'ai aperçu, élégant et tellement étonnant.
Alors, chaque jour à l'aurore, je m'en vais au boulot. Je croise dans le métro des zombies sous anesthésie, des êtres au mouvement automatique. Moi, ce que je voudrais, c'est retrouver les génies magnétiques. Oulou. Ah,
moi, c'est pas aussi beau que... Oh.
Non, on n'a pas le droit.
On n'a pas le droit de
s'auto...
Voilà, lapider.
Alors... Aujourd'hui, en me baladant, j'ai aperçu Aurore, et paf, en me voyant, elle était surprise comme moi. Ça perd l'hippopète, et on irait bien se faire une gaufre en ville.
Ouais, bah voilà, et puis bien des chocolats.
Elle était gigantesque et dépassait les frontières du cadre. Elle était parvenue à son imago, et il ne lui restait plus qu'à immaner, bref, à chuter de son rocher. L'esperluette gémit, et pour se venger... Elle dressait ses pattes vers la droite. On n'en voyait pas le bout, mais on pouvait imaginer avec quelle force elle pouvait tordre le cou de l'artiste qui l'avait dessinée.
Bon, elle est vraiment trop moche, la dernière image que m'a donnée la maîtresse. Ça relèverait presque de la punition. En même temps, alléluia, j'en ai le front qui suinte, ça fait 10 tourons. D'abord, il y a eu l'hippopotame, et puis celle avec le vendeur de gaufres, la scène de gymnastique, le génie anorexique, le bateau et son sillage de marée noire. L'Italie, l'enclume, la saperlipopette, et la neuvième, l'esperluette. Il n'y a pas à dire, c'est pédagogique les images. Tout ça pour un instant d'anarchie autorisé.
Les mots écrits sont des mains qui tâtonnent dans l'obscurité. Jean-François Bouchemin, dans le livre Le Roitelet. Choisissez une image. Décrivez ce que votre narrateur, narratrice, voit, ce qui le, la, frappe dans cette image, ce qu'il, elle, ressent. Imaginez ce qui s'est passé avant cette image fixée à un instant précis et après. Racontez une histoire. Parlez de la difficulté à décrire une image, les tâtons qu'on tente pour se faire. Vous avez 20 minutes.
Quelle idée de me dessiner en équilibre sur ce fil, même pas accroché des deux côtés. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Déjà, on se demande bien comment j'ai pu arriver là. Personne ne peut réellement croire que j'ai glissé depuis la colline à droite et atterrir, hop, comme une fleur, sur les pointes de pied, toute droite et parfaitement alignée. En plus, je suis encore en pyjama. Ça aurait été sympa de me mettre une petite robe à fleurs, ou un tutu, ou au moins un truc un peu coloré. Mais cette grenouillère de bagnard, c'est d'un ridicule. Ah, et puis je sais pas pourquoi, j'ai le battoir à tapis de mamie dans la main. Super pratique pour garder l'équilibre. Un joli ballon rouge, ça aurait été vraiment plus joli. Et plus facile à dessiner en plus. Et on en parle de ce chignon ? On dirait un bonnet de Mickey vu de profil. Remarque, c'est peut-être ça. Mais alors, elle est où la cohérence, le dress code dans tout ça ? Mickey se sauve de la prison où il était relégué au dépoussiérage des tapis ? Et alors tout ce bordel en dessous de moi, on dirait un fond marin de porc plein d'objets perdus, plus incongrus les uns que les autres. Une écoutille de sous-marin, une demi-barque renversée, un phare dont les éclats de verre rouge se sont émoussés et arrondis au fil de l'eau et du temps. Il y a même un tuya albinos, une peau d'âne momifiée, une otarie à pois et une tortue à grosse tête. Comment vous dire que tout ceci est difficile à raconter ? On dirait qu'elle est sortie d'un rêve ou d'une hallucination cette image. En tout cas, j'ai pas intérêt à tomber, sinon je deviendrais moi aussi un objet incongru perdu dans la moitié inférieure de la page. Heureusement que je suis figée, pour les siècles des siècles.
Ça pourrait être en noir et blanc, en nuit et en neige. Des montagnes abruptes dessinées à l'horizon, une pleine lune comme seule lumière. Une procession descend de la crête, de noirs corbeaux à noirs humains, qui suivent un chemin tout tracé, ensemble mais seuls. Les êtres en tête deviennent blancs à leur tour. Ils perdent leur consistance et avancent dans un tunnel sans échappatoire. Et au milieu de cette image lente, plantée comme une graine de différence ou d'imaginaire, elle se détache, l'autre, 4 fois plus grande, le regard vers l'ailleurs, des fantaisies dans les cheveux et sur sa robe. Le noir qui l'habille prend couleur. Et le sac énorme qu'elle hisse, telle la hotte du Père Noël, est plein à craquer. Des couleurs, des arbres, des branches, des poteaux électriques. C'est une ode à l'individu, reconnaissance des souvenirs et des expériences de chacun, assumée. Comme une bulle de savon soufflée par une enfant.
Ah ouais, ouais, ouais. Bon, je le fais passer, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'observe deux femmes qui se prennent dans les bras l'une de l'autre. Leurs pensées semblent différentes car des hirondelles illustrent le vêtement de l'une alors que diverses têtes d'oiseaux illustrent le vêtement de l'autre. Il y a beaucoup de contrastes, les deux femmes sont en noir et blanc. De leur échange et en toute symbiose, il fleurit des couleurs printanières synonymes d'amitié, probablement. L'illustration dégage beaucoup de sérénité, malgré le contraste qui frappe l'œil au premier regard.
On l'a fait circuler. Alors, je vais commencer par la description. Donc, y a 4 humains assis sur une branche d'un arbre. Et les branches de l'arbre, elles sont nettes, alors que le feuillage derrière, il est un peu diffus. Les personnes qui sont posées sur l'arbre, elles sont variées au niveau des cheveux, des vêtements, de la couleur de peau, tout ça. Et au-dessus des visages, il y a une sorte de nuage ou de volute qui va vers le haut. Et donc, voilà, le dessin, ça me fait un petit peu penser aussi à un dessin d'enfant. Et pour ce que ça m'évoque,
Du coup, les personnages qui sont perchés sur le même arbre avec leur volute au-dessus de leur visage, un peu comme des bulles de BD, ça me fait penser, en fait, comme ils sont sur un réseau de branchages, un réseau mycélien, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, les humains, c'est un peu comme des champignons, comme des carpophores, en fait. Et on dirait qu'ils sont tous indépendants, alors qu'en fait, ils sont tous reliés par des branches, par du mycélium, en fait. Et voilà.
Elle est spéciale, ouais, cette image.
Je me promenais avec un ami quand, tout à coup, je vis un petit lac à ma droite, bordé d'arbres verdoyants. Dis-moi, si on allait se baigner, dis-je. Je n'ai même pas eu le temps de terminer ma phrase que mon ami plongea. Quel havre de paix. Je reviens de cette journée ensoleillée qui se termine, il est 21h. Le soleil va se coucher, comme il est doux de se diriger dans cet endroit si magnifique. J'ai l'impression que tout est là. J'ai accumulé des saloperies toute la journée qui s'en vont avec l'eau. Oui, quelle délice de ressentir toute cette fraîcheur après cette journée si torride. C'était aussi délicieux que de manger ma gaufre tout à l'heure.
Ah oui?
Un truc comme ça, génial. À la fin.
Bon, on y est, hein?
Ouais.
On y est, on est dans l'eau, on est avec eux, hein?
Ouais.
Avec les personnages.
Mais tu vois, c'est encore une autre interprétation, parce que moi, tu vois, je voyais autre chose. Hein.
Ouais.
On dirait qu'ils sont. Enfin, pour moi, ils sont enterrés, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Ouais,
pour moi, c'est un peu Icar, et Icar qui s'est monté comme ça, quoi.
Ouais.
Ah oui.
Ah ouais, comme quoi, tu vois, les interprétations sont vachement différentes. Effectivement, il y a de la verdure autour.
Mais pour moi, c'est la nuit. Enfin, c'est le soir, il y a à peu près 21h, le coucher de soleil.
D'accord.
C'est précis.
Ouais, ouais. Après, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont un caleçon et une robe rouge. Quoi. Enfin,
ah oui, justement, j'ai voulu dire. Oui, j'avais parlé
de ma
robe à poids, justement, c'est ça que j'avais parlé. Moi, je sais plus.
Hélène. Mon image, c'est ça, moi. Alors, celle-là, on peut vraiment la regarder dans plein de sens différents. Ouais. On peut la regarder. Moi, je l'ai plutôt prise comme ça, format paysage. Alors. Elle fait la planche dans ses souvenirs. Ils sont fragmentés autour de son corps, en petits morceaux verts. Ils ressemblent à des petits poissons qui l'escortent, comme dans ses reportages sur la vie sous l'eau. Sauf qu'elle, elle flotte. La grande forme bleue et vert, à côté de sa tête, une balade faite l'an dernier avec son grand frère, dans la garrigue. Le soleil avait brûlé et fait fondre leur envie de se retrouver. Il avait quitté la Provence. Le sud, il en avait eu marre. Un beau souvenir, malgré tout. Elle aimait y penser, le revoir, en parcourir les images, leurs nuances, la place qu'elles occupaient dans cet espace mental désormais détaché d'elle, comme une bulle. L'autre forme, du côté de ses pieds, elle la voyait moins bien. Elle dérivait et était passée à côté il y a déjà un bon bout de temps. C'était quoi déjà? Un voyage? Un coup de fil? Une lecture? Impossible de se rappeler. La forme ondulait dans l'eau comme une méduse, molle, translucide, souple. Un souvenir parmi d'autres, imprécis, posé dans ce bain intime où elle flottait elle-même, molle, translucide, souple. Tellement imprécise également, incapable de dire ce qu'elle attendait de la vie sur cette terre. Rien peut-être, hantée qu'elle était probablement par le désir de tout quitter, souvenir et respiration à l'air libre, et de retourner dans les profondeurs, à la nage. Voilà. C'est une belle image aussi.
Pardon. Alors moi, la mienne, c'est celle-là. C'est celle-ci. Elle était gigantesque et dépassait les frontières du cadre. Elle était parvenue à son imago et il ne restait plus qu'à y maner, bref, à chuter de son rocher. L'esperluette gémit et parut se venger. Elle dressait ses pattes vers la droite, on n'en voyait pas le bout, mais on pouvait imaginer avec quelle force elle pouvait tordre le cou de l'artiste qui l'avait dessinée. Et pourtant, Elle s'y était prise avec beaucoup de soin à tracer les formes alanguies de cet animal évanescent. Pour l'ancrer dans le cadre, elle l'avait cousu solidement au tissu rouge qui la soutenait, comme pour le capturer et lui donner de l'épaisseur. Un poids, un arrimage. Mais l'esperluette ne songeait qu'à s'enfuir. Ses lianes se mirent à danser dans le cadre. Et peu à peu, elle s'éleva. Le tissu rouge tenta in extremis de la tacher de petites traces rondes, histoire de la repérer parmi ses congénères quand elle volerait dans le ciel. Mais elle ne se laissa pas faire, elle les lui relança comme autant de boulets rugissants. Puis elle s'élança vers la surface, altière et luminescente. Trop nulle cette description, j'ai encore évoqué symboliquement les chaînes qui se brisent, la renaissance d'un être emprisonné, ça n'a ni queue ni tête, c'est d'un banal, impossible d'user de mots assez justes pour dire cette chose sombre, douce et subtile qui s'élance vers le haut du cadre. L'image m'échappe, je reste groggy et frustré, enfermé dans mes habitudes. Dire qu'un autre y voyait un horizon, une simplicité, une raison de contempler, l'esprit vide et heureux de cette béatitude. Et moi, je cherche sans relâche une histoire, une raison d'être, un sillage, une enclume. Au lieu de simplement me perdre, m'enfoncer dans l'antre de la chose et m'y dissoudre totalement. Je suis la chose. Je laisse mes lianes vaporer dans le liquide. Je ne pense ni à hier ni à demain. Je m'étale et observe ma créatrice, perplexe devant cette œuvre qu'elle a dessinée sans réfléchir, perdue elle-même dans sa propre inspiration. Allons-y.
Alors, Hervé.
C'est quoi ton image ?
Vous le saurez après. Alors, je trouve que certains photographes prennent beaucoup de risques pour immortaliser un instant. C'est une des qualités requises pour ce métier, de savoir bien se placer au bon moment et de dégainer pour capter la photo. Celle-ci a fait le tour du monde, exposée en affiche 4x3 et a priori a été plutôt rentable. Mais moi, je trouve ça plutôt irresponsable de prendre un motard avec sidecar qui roule à vive allure en se postant juste devant. J'imagine que l'instant d'après, le motard a frôlé l'accident, de plus, dans une ruelle étroite et bardée de palissades. Par ailleurs, le conducteur, avec son casque blanc, sa salopette bleue, sa chemise blanche, sa cravate rouge, est équipé plutôt comme un laitier que comme un motard. Et il a mis son chien dans le sidecar. Il a l'air tendu, mais heureux, et on ne sait pas trop où il va comme ça. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont suivis de près par un petit avion rouge piloté par un mouton noir, qui a l'air complètement interdit d'être pris sur le vif dans son vol en rase-motte. La légende de la photo précise le contexte. Les incroyables aventures de Wallace et Gromit. Ouf, c'est de la fiction. La photo a été prise en stop-motion pour faire la promo du film. Le photographe a largement eu le temps de prendre sa photo et de repartir tranquillement boire un petit café. Voilà. Et donc la photo, c'est ça, l'image.
Ouh là là, quand j'ai vu tout ce boulot. Ouh là là, je me suis dit tout ce boulot. Tout ce boulot, tout ce boulot. Tout ce boulot,
là, j'ai dit tout ce boulot.
Ouh là là, quand j'ai vu tout ce boulot. Ouh là là, j'ai vu tout ce boulot. Je me suis dit tout ce boulot. Quand j'ai vu tout ce boulot. J'ai dit tout
là là.
Tout là là,
quand j'ai vu tout ce boulot.
Tout ce boulot.
Oh là là.
Vous avez pu écouter lors de cette émission les chansons du groupe suisse Alice, petite pub perso, pour ceux qui ont écouté ou pas encore la fiction radio bipolaire Buffol, itinéraire d'une corsaire de la psyché que j'ai pu diffuser lors des mois précédents sur Radio Campus, eh bien, vous pourrez m'écouter en participant à la rencontre qui se déroulera à la médiathèque d'Armentières, vendredi prochain à 18h. Plus d'infos sur le site campuslille.com ou en contactant l'adresse mail lematourevient@gmail.com. Le matou, c'est terminé. Au mois prochain pour d'autres aventures. Ciao.